chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France. Nous allons retrouver tout de suite en direct des studios Christine Terre-Noire pour une nouvelle émission sur le couple, couple et la parole de Dieu. C'est tout de suite à suivre sur Radio Maria France. Christine Terre-Noire, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Oui, bonjour, bonjour à vous tous, chers auditeurs. Bienvenue à vous, nouveaux auditeurs. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet, je dirais initier notre petite méditation. Tout d'abord, il m'a semblé qu'il était important de peut-être de préciser certaines choses par rapport au mariage, parce que par les temps qui courent, le mariage est quelque chose, est une institution qui est un petit peu remise en cause. Et puis souvent, on entend une petite musique qui consisterait à dire que finalement, le mariage n'a été un sacrement qu'à partir du 12e, 13e siècle, et qu'il a été inventé d'une certaine façon dans la forme que, de l'Église que nous lui connaissons. Et voilà, donc je voulais un petit peu voir avec vous ce qu'il en était. Alors, ce sacrement, est-ce qu'il a vraiment été inventé au XIIIe siècle ? Alors, bien évidemment, la réponse que je vais vous donner est que non, ce n'est pas un sacrement inventé au XIIIe siècle. C'est un petit peu ici le type même de l'erreur que l'on fait parfois en ayant une lecture un petit peu trop rapide de l'histoire des sacrements et de l'histoire de l'Église. Et donc, ce que je vous propose de faire aujourd'hui pour cette nouvelle année ensemble, c'est essayer de comprendre avec vous, de voir comment plutôt comprendre l'origine de ce sacrement de mariage et surtout pourquoi est-ce que l'Église est tellement obstinée à le défendre envers et contre tout. Hein, on l'accuse de ne pas vivre avec son temps et de défendre une idée du mariage qui n'est plus du tout d'actualité. Et quoi que l'on pense, eh bien, tous les papes, les uns après les autres, réaffirment l'originalité et la force de ce sacrement. Alors, nous ne ferons pas, nous n'allons pas faire de l'histoire de l'Église, hein, même si peut-être que aujourd'hui ou les autres fois, peut-être que je l'évoquerai avec vous. Mais ce que je vous propose, c'est pour comprendre l'origine de ce sacrement de mariage, d'entrer avec moi dans le mystère de ce que l'on appelle le plan divin. Et entrer plus précisément dans le mystère du plan divin de Dieu, donc sur le couple humain. Et bien évidemment, ceux qui d'entre vous qui me connaissent savent que très vite, je vais vous inviter à entrer dans ce mystère en écoutant la parole de Dieu, en la recevant comme une succession de petites lumières, de petits lampions qui vont nous guider, qui vont nous éclairer et qui vont nous rassurer tout au long du chemin que nous allons emprunter pour entrer dans la profondeur de ce mystère si particulier. Alors, pourquoi est-ce qu'il me semble important d'entreprendre cette démarche ? C'est comme je l'ai dit, parce que le mariage et la famille sont vraiment attaqués de façon brutale, et même nous avons vu apparaître des opinions considérant que le couple, qui est composé d'un homme et d'une femme, n'était pas le seul moyen de vivre une relation amoureuse. Et je voudrais ici avec vous en se plongeant dans la parole, comprendre quelle est la vocation réelle du couple. Alors, tout d'abord, il y a quelque chose qui est essentiel à comprendre et que je veux affirmer, c'est que le couple humain, dans sa, je dirais, le couple humain, la relation conjugale, le mariage, eh bien, ce ne sont pas des inventions humaines. C'est le couple humain est une création de Dieu. De façon un petit peu rapide, on pourrait dire que lorsque l'on réfléchit, il apparaît évident que l'union entre un homme et une femme eh bien, est la chose, l'acte le plus évident, le plus instinctif, le plus naturel qui puisse exister entre un homme et une femme. Mais ce que je voudrais voir avec vous, c'est pourquoi est-ce que nous pouvons affirmer que cette relation dans le mariage est une relation qui est d'origine divine. Donc nous allons ouvrir la Bible à la première page, hein, qui est le chapitre de la Genèse. La Genèse, ça veut dire le commencement. La Genèse, c'est l'origine. C'est le temps même de la création. Hein. Ce chapitre de la Genèse, il nous dit comme parole vivante, hein, qu'il faut recevoir comme une parole vivante, il nous dit comment et pourquoi la création, pourquoi Dieu pose cet acte de la création. Alors, ceux d'entre vous, et nous, vous qui connaissez ces textes, nous les avons souvent lus ensemble l'année dernière, nous les connaissons, ces textes, nous savons bien qu'il ne faut pas les lire de façon littérale, qu'il faut les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour des poèmes. Ce sont des textes, on dit que ce sont des textes de forme poétique, en particulier le premier chapitre de la Genèse qui raconte la création du monde. Vous savez, avec ce au commencement, Dieu créa la terre, Dieu créa la mer, Dieu créa, etc. Cette répétition des sept jours de la création. Et ces textes, à travers leur style poétique, eh bien, ces textes nous disent une première chose essentielle, à savoir que l'existence du monde n'est pas le fruit du hasard. Le monde n'est pas le fruit d'un hasard aveugle. Il n'est pas le fruit d'un hasard aveugle et qui n'aurait pas de sens que celui du hasard. Mais au contraire, l'existence du monde est le résultat d'une volonté. Je dirais même plus, donc d'une volonté, mais même je dirais que la création est le fruit et le résultat d'une volonté et d'un amour unique et infini, qui est l'amour de Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsque Dieu crée le monde, il ne crée pas pour compléter quelque chose qui lui manquerait. Il ne crée pas pour compléter son bonheur, ou il ne crée pas parce que il aurait besoin d'une action. Non, Dieu n'est pas comme cela. Dieu n'a pas besoin de compléter quoi que ce soit de ce qu'il est. Dieu n'a pas besoin d'agir pour augmenter son bonheur, puisque Dieu est parfait. Dieu, la seule explication logique que nous pouvons recevoir de la création du monde par Dieu, c'est que Dieu crée le monde par pur amour. Dieu crée le monde par pur amour. Il crée le monde avec comme manifestation d'un amour qui est parfait, qui est absolu et qui est un amour d'une gratuité parfaite. La création du monde par Dieu, dont nous ne pouvons pas, bien évidemment, décrire de façon scientifique la façon dont elle s'est passée. Souvent, on a tendance à dire que c'est une habitude de dire que la Bible ne nous explique pas comment, mais la Bible nous explique pourquoi. La Bible nous explique que le monde est créé par un mouvement d'amour total de Dieu, un mouvement d'amour gratuit. Et bien évidemment, pour nous qui sommes des créatures limitées, nous pouvons avoir du mal à le comprendre totalement, et c'est là que nous devons le recevoir comme une manifestation de l'amour que Dieu porte à sa création. Voilà, donc le monde est le résultat d'une gratuité parfaite, Et lorsque nous disons le monde, bien évidemment, nous disons nous, nous les hommes, nous sommes aussi la conséquence de cet amour parfait et de cet amour, je dirais même inouï, qui a donné la vie. Alors, lorsque nous lisons ces textes, nous, particulièrement celui de la Genèse, nous comprenons que la terre, la nature dans son ensemble, hein, dont on parle beaucoup, la nature dans toutes ses dimensions, eh bien, n'est pas commandée par des mouvements aveugles. La création de ce qu'on appelle le monde sensible de la nature ne sont pas des éléments aveugles, mais ce sont des créations de Dieu qui sont portées par son amour. Et lorsque je réfléchissais un petit peu à cet entretien, je repensais à une de mes catéchistes, lorsque j'étais petite fille, qui nous disait souvement, qui nous disait « Mais vous savez, si Dieu arrêtait de penser une seule seconde à notre monde, eh bien celui-ci disparaîtrait. » Je me rappelle que, comme petite fille, je trouvais ça tout à fait extraordinaire, autant que incompréhensible. C'était peut-être une façon un peu brutale, un peu sèche pour cette catéchiste de nous dire les choses, parce que on aurait pu lui dire non, plutôt que si Dieu avait arrêté de penser, on aurait pu dire si Dieu avait arrêté d'aimer le monde, si Dieu arrêtait d'aimer le monde, eh bien ce monde ne serait plus à l'existence. Mais la catéchiste aurait pu aussi ajouter qu'il est absolument impossible de penser que Dieu puisse arrêter d'aimer, parce qu'on ne peut pas penser à Dieu si l'on ne pense pas à un Dieu qui est un Dieu d'amour total. Donc vous voyez le premier élément essentiel lorsque l'on parle du couple, paradoxalement, c'est d'évoquer la création comme un mouvement d'amour. Et donc, ce mouvement d'amour, il était essentiel que nous le précisions bien, parce que ce mouvement d'amour, il est central dans tout ce que nous allons pouvoir dire sur le mariage. Lorsque nous allons parler du mariage, nous ne pourrons pas réfléchir et le méditer avec la parole sans le lier à cet élan d'amour de la création. Il est une affirmation que nous pouvons dire donc, c'est que Dieu est amour. C'est la première affirmation essentielle pour pouvoir continuer à avancer sans risquer de se perdre, c'est de dire que Dieu est amour. Et d'ailleurs, c'est le titre Dieu est amour, c'est le titre d'un très beau texte, des magnifiques textes du pape Benoît XVI, qui s'intitule en latin Deus Caritas Est, où Benoît XVI nous explique dans ce texte magnifique que Dieu est amour, Dieu est charité. Charité qui est la forme la plus haute et la plus noble de l'amour. Parce que la charité, finalement, consiste à accomplir le don de soi pour ceux que l'on aime. Vous savez, c'est ce que Jésus nous dit avant de vivre sa passion, il nous dit « il n'y a pas de plus grand amour, il n'y a pas de plus grande charité que de donner sa vie pour ceux que l'on aime ». Donc voilà cette affirmation de ce que Dieu est charité, Dieu est amour, qui est le sujet central de l'encyclique. Cette encyclique est aussi le premier texte de Benoît XVI, le premier texte du pontificat de Benoît XVI, comme une façon pour Benoît XVI de nous dire que tout son programme se résume, tout son plan d'action se résume à cette affirmation « Dieu est amour, Dieu Deus Caritas Est, Dieu est amour, Dieu est charité ». Et c'est effectivement le plan d'action qui a guidé notre pape, grand théologien et passionné de Dieu. Voilà, pardon pour cette petite digression, pour ce petit écart, mais je n'insisterai jamais assez sur cette dimension, parce que si l'on perd cette dimension de la charité, de l'amour divin, eh bien, on risque de ne plus rien comprendre. On risque de boiter de façon dramatique et de ne plus rien comprendre à ce que au plan de Dieu sur nous. Voilà, donc pour reprendre le fil de l'entretien, le monde, donc je vous l'ai dit, est créé par amour. Nous avons la manifestation de ce récit de la création en 7 jours, hein, qui nous raconte sous cette forme poétique la création, que le monde est création de Dieu. Encore une petite parenthèse, pour justifier la forme poétique de ces textes, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque ces textes ont été rédigés, les croyants qui les ont écrits étaient entourés par des civilisations païennes, hein, des civilisations de l'Antiquité païenne, qui pensaient que tout était un peu Dieu, le soleil était un Dieu, la lune était un Dieu. Voilà, ils pensaient que tous les astres étaient des dieux, ils pensaient que les hommes étaient soit des dieux déchus, punis par un Dieu plus important que les autres, ou alors ils pensaient que les hommes étaient des créatures curieuses qui étaient à mi-chemin entre les hommes et les dieux. Eh bien, le texte de la Genèse, il est là pour affirmer que la création est l'œuvre d'un seul Dieu, notre Dieu, et que tout lui est soumis. Les astres, comme tous les éléments naturels, tout lui est soumis. Et surtout, nous apprenons, alors dans le texte de la Genèse, au 6e jour, nous apprenons que l'homme et la femme sont créés et qu'ils sont créés en tant que couple. Et c'est là la deuxième chose essentielle de notre conversation, de bien comprendre que lorsque l'humanité est créée, elle est créée en tant que couple. C'est l'homme, humanité est créée en tant que couple. Voilà ce que nous dit ce texte, et voilà quelle est la grande et la belle nouveauté de ce texte, c'est que lorsque Dieu crée l'humanité, il ne crée pas d'abord l'homme, ensuite la femme, comme pour compléter son action. Non, il crée deux êtres en même temps, ensemble. Voilà la première chose. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il crée ce couple à son image, à sa ressemblance. Hein, on connaît bien cette phrase, et Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme, ou mâle et femelle, selon les traductions que l'on utilise, mais plutôt mâle et femelle, sont créés à son image. Alors, après cette stupéfiante révélation, bien évidemment, les chrétiens dès le début, les chrétiens qui connaissaient, qui étaient dès le début tout au long de l'histoire, ensuite ont réfléchi pour savoir, pour comprendre ce que voulait dire cette comparaison. Comment est-ce que Dieu pouvait créer l'homme et la femme à son image, puisque Dieu est pur esprit, que l'homme et la femme ont un corps? Et en fait, dans un premier temps, les chrétiens ont très vite compris que cela voulait dire que les hommes, créés hommes et femmes, sont capables de connaître et d'aimer Dieu. Parce que l'homme et la femme sont à l'image de Dieu, eh bien l'homme et la femme peuvent reconnaître et aimer Dieu. Je vais juste un petit exemple pour me faire comprendre, qui est un petit peu idiot, mais si je prends par exemple l'exemple d'un, on va prendre un animal, un chien, qui a une nature de chien, est capable de se reconnaître identique à un autre chien, il a avec lui une identité qui va faire qu'instinctivement il va avoir certaines attitudes envers l'autre chien. Voilà, pour expliquer ce que veut dire l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'homme et la femme qui sont à l'image de Dieu portent en eux, certains théologiens ont dit, une étincelle divine. Et cette étincelle divine permet de connaître et d'aimer Dieu. Et donc, l'homme et la femme, créés par amour, créés capables d'aimer, sont aussi les deux seules créatures qui peuvent connaître et aimer Dieu et qui peuvent le faire en toute liberté et en toute volonté. Voilà ce que nous dit ce texte de la Genèse avec ses images. Hein, l'homme et la femme sont créés par Dieu dans un mouvement qui est unique, qui est particulier. Et nous allons aller plus loin. Nous allons dire aussi que puisque ce Dieu que nous, auquel nous croyons et que nous aimons, c'est un Dieu qui est défini par une relation trinitaire, c'est un Dieu qui est trois personnes unies par un amour gratuit, eh bien, nous pouvons dire que dans la création de l'homme et de la femme, eh bien, il y a la capacité pour l'homme et la femme de manifester quelque chose de cet amour trinitaire. Voilà, donc cette lecture de la Genèse, vous voyez que nous sommes partis de ce texte, de ce poème, pour entrer dans quelque chose d'essentiel et d'extrêmement important, à savoir que le couple humain n'est pas le résultat d'un hasard, il est le résultat d'un mouvement d'amour. Le couple humain n'a pas été créé séparément, l'homme et la femme sont créés ensemble pour vivre ensemble et pour vivre unis. Et ce couple humain qui fait partie de la création, qui a une vocation à la croissance. Alors, on comprend souvent aussi la génération, hein, la propagation de l'espèce, mais la croissance, qui est la vocation du couple, n'est pas seulement celle-là. Elle est aussi une croissance dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. Donc voilà, le couple humain, il est le résultat d'un élan d'amour, d'un élan de la création, d'un élan d'amour de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'Église a toujours affirmé que le mariage n'est pas inventé par l'homme. L'Église a toujours affirmé que ce n'était pas elle qui avait inventé le mariage, mais que l'origine du mariage était divine. Le mariage, comme expression de l'amour entre un homme et une femme, est d'origine divine. Dès la création, il fait partie du plan divin. C'est un très grand mystère que ce mystère du couple humain, ce mystère du sacrement de mariage, hein, puisque comme tous les sacrements, il porte en lui quelque chose du mystère de la création et de la rédemption, c'est-à-dire qu'il manifeste quelque chose de la création et de la rédemption. Et je pensais, en parlant à Saint Jean-Paul II, qui est un des immenses théologiens du XXe siècle et qui a consacré une grande partie de sa foi et de son génie à réfléchir sur le couple humain, sur la vocation du couple humain. L'un des témoins rapporte qu'il a toujours manifesté une fascination pour ce mystère. C'était pour lui une énigme qu'il ne pouvait cesser d'approfondir, tant ce mystère de ce couple humain, tant ce mystère de la relation conjugale comme constitutive et de la création lui paraissait immense et passionnant. Donc, voilà pour ce que nous dit la Genèse et ce que voilà pour cette première ébauche de réflexion sur ce que la parole de Dieu dit sur l'origine du couple, l'origine du mariage. Alors, certains pourraient rétorquer, oui, mais bon, ce sont les textes de la Genèse. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, je voudrais avec vous faire un bond dans le temps pour rejoindre le Seigneur, rejoindre Jésus, nous retrouver à côté de lui dans une discussion très célèbre qu'il a avec les pharisiens. Alors, les pharisiens, vous savez, c'était des savants de la loi qui étaient très très pointus sur la loi. Et on retrouve cette discussion alors dans l'évangile de Matthieu au chapitre 19, on la retrouve aussi dans l'évangile de Marc au chapitre 10. C'est une discussion où les pharisiens arrivent. Alors Matthieu nous dit pour mettre Jésus à l'épreuve. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre Jésus à l'épreuve? Tout simplement parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à l'époque, comme maintenant, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. À l'époque, il y avait beaucoup de discussions pour savoir quelle était la valeur du mariage et surtout si oui ou non on pouvait divorcer, se remarier. Alors il y avait deux écoles différentes chez les pharisiens. Il y avait ceux qui considéraient que le divorce était quelque chose qui devait se faire très facilement. Et puis l'autre école, ce qu'on appelait les écoles rabbiniques, hein, n'avait pas la même opinion, pensait que le divorce ne pouvait être accordé que pour des raisons extrêmement graves. Et la question se discutait de façon très, très animée. Et en fait, le piège des pharisiens, hein, c'est ce que nous dit, les pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve, est-il permis de répudier sa femme? Les pharisiens savaient très bien que Jésus ne pouvait donner aucune bonne réponse. Il ne pouvait rien répondre en se référant à cette discussion, comment donner le divorce, etc. Et donc, ils espéraient piéger Jésus comme d'habitude. Et comme d'habitude, bien évidemment, Jésus ne se laisse pas piéger. Il évite le piège en renvoyant ses interlocuteurs à la vérité, en renvoyant ses interlocuteurs à la vérité du plan de Dieu, à la volonté divine. Et donc, pour expliquer et pour comment dire, pour argumenter sa réponse, il utilise un mot qui est essentiel, que nous avons vu en première partie, qui est celui de l'origine de la Genèse. Jésus dit à l'origine. Dès l'origine, le Créateur les fit hommes et femmes. Ils ne feront qu'une seule chair. Et Jésus alors conclut en disant, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Donc, Jésus invite ses interlocuteurs, nous invite donc nous, lorsque nous nous posons des questions sur le mariage, eh bien, Jésus nous invite à nous remettre dans le plan divin, nous invite à nous remettre dans cette origine divine, dans l'origine de ce mouvement d'amour. Et Jésus nous dit, c'est comme cela que le Créateur voulait que la création se déploie. Le mariage, il fait partie de la création. Il est un élément fondamental de la création. Il est issu de la volonté divine. Et c'est bien donc pour cela que le droit canon, ce que l'on appelle le droit canon, qui est la loi, le droit canon, c'est la loi de l'Église, hein, affirme que nulle puissance humaine ne peut rompre un vrai mariage. Le vrai mariage relève du Créateur lui-même. Le mariage est un élément qui ne relève que de Dieu. Alors, bien évidemment, il n'est pas question pour moi de vous parler uniquement de loi, de réduire la question du mariage à une question de loi, parce que ce serait très réducteur, hein. Il est par contre important de comprendre que la loi, elle n'est que l'expression d'autre chose qui est beaucoup plus profond. Pour prendre encore un exemple simple, je n'ai pas le droit de brûler un stop. Ce n'est pas par respect pour une lumière rouge ouverte ou de brûler un feu, pardon. Donc ce n'est pas par respect pour un panneau, pour une lumière rouge et verte. Ce n'est pas la lumière rouge et verte à laquelle j'obéis. Non, c'est tout simplement que je respecte quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que en m'arrêtant à un feu rouge ou un panneau de stop, je m'oblige à tout faire pour ne pas faire de mal à mon prochain. Je respecte le feu rouge parce que je ne veux pas écraser quelqu'un. La loi me dit, tu dois respecter le feu rouge. La loi ne le dit pas, mais le sens de cette loi, c'est tu dois respecter le feu rouge parce que sinon tu risques de faire du mal à autrui. Eh bien, pour la loi de l'Église, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'elle dit aucune puissance humaine ne peut rompre un vrai mariage, eh bien, ce n'est pas une interdiction qui se justifierait comme ça parce qu'il y aurait une loi, mais c'est parce que cela exprime la vraie signification de l'union entre un homme et une femme. Et donc, pour comprendre encore mieux cette affirmation, je vous propose le dernier bond que nous allons faire dans l'Écriture pour rejoindre saint Paul, l'apôtre Paul, qui nous dit et qui accomplit cette réflexion sur le mariage. Hein, l'apôtre Paul, dans ce texte très fameux que parfois on lit un petit peu de travers dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 5, Paul lui aussi se réfère à l'origine puisqu'il va aussi rechercher le texte de la Genèse. Et Paul nous dit quelque chose d'absolument incroyable pour nous chrétiens, c'est qu'il nous dit que le couple humain est l'image de l'amour du Christ pour l'Église et image de l'amour de l'Église pour le Christ. Donc, saint Paul vient pour expliquer, pour nous proposer ce mystère, il le dit lui-même, ceci est un grand mystère, de ce mystère qui est que le couple humain manifeste quelque chose de la relation entre le Christ et les hommes. Donc, vous voyez, nous avons parcouru la Genèse, l'origine. Nous avons retrouvé le Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu. Nous avons retrouvé saint Paul dans son épître aux Éphésiens. Et finalement, à ce stade de notre parcours de la parole, eh bien, nous nous rendons compte que finalement, nous en revenons à ce qui a fait le début de l'entretien. C'est-à-dire que le couple humain est issu de l'amour divin et qu'il est le signe de l'amour divin. Voilà quelle est la vocation du couple. Voilà quelle est sa raison d'être. Le couple humain est profondément aimé, porté par Dieu. Et Dieu fait ce pari d'amour fou puisqu'il confie au couple la charge de porter le monde et de porter le monde et tous ceux qui constituent ce monde. Donc, avant de nous quitter, je voudrais terminer sur cette conviction, hein, cette conviction de cet amour profond de Dieu pour le couple qu'il reconnaît comme manifestant son image, parce que cette conviction, elle doit nous porter, elle doit nous rassurer. Quelles que soient les circonstances, il faut en être persuadé, le couple est profondément aimé de Dieu. Et nous verrons donc tout au long de cette année comment va se déployer cet amour de Dieu pour le couple et nous allons avancer en écoutant ce que nous dit la parole de Dieu. Je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à dans un mois.